Audrey, on disait que un peu plus tôt, Nathan avait copié tes devoirs en nous présentant un petit reportage sur l'Ozempic. Puis je savais que tu avais préparé quelque chose pour nous autres aussi, mais là, on s'en va complètement ailleurs.
On s'en va complètement ailleurs, puis j'avais hâte de vous présenter ça parce que j'ai une curiosité pour ces métiers-là dont on n'entend pas parler particulièrement souvent. Puis j'ai rencontré une femme qui s'appelle Valérie, connue sous le nom de Mademoiselle V, dans les dernières semaines, avec qui j'ai énormément échangé pour trouver le bon angle, pour commencer, si on veut, une espèce de collaboration avec elle. Et c'est une femme qui a été la seule à exercer son métier au Québec pendant à peu près 10 ans.
C'est quoi sa job?
Sa job, c'est d'être escorte, mais plus particulièrement auxiliaire sexuelle. Et c'est là que ça se corse un peu, OK? Parce que, je veux dire...
Parce que non, il n'y a pas juste eu une escorte au Québec pendant 10 ans.
Non, c'est ça. C'est plus vieux, mais c'est du monde, après tout.
Totalement. Ben ouais. Elle, en fait, pour vous faire une petite histoire rapidement, ça fait à peu près 16 ans qu'elle baigne dans l'univers de la sexualité, dans le sens où elle a fait ses études en sexologie. Elle était mariée, elle a eu 2 enfants. Maintenant, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas particulièrement heureuse dans sa relation au niveau sexuel. La maladie s'est mêlée de sa vie aussi un peu, puis elle a décidé, bon, de laisser son mari. Cette histoire-là, c'est terminé. Elle a ses enfants, tout va bien. Puis elle s'est dit, pourquoi pas essayer ce métier-là d'escorte? Elle avait une attirance pour ça, elle avait un besoin de découvrir sa sexualité. Puis à un moment donné, ben, je vous fais ça rapide, mais il y a un client qui s'est pas prononcé sur un handicap assez fort qu'il avait.
Il aurait dû l'avertir, dans le fond?
Il aurait peut-être dû l'avertir, parce que normalement, ben, il y a quand même une description là, qui se fait au niveau du client quand t'es escorte. Puis cette journée-là, son métier a pris toute une tournure peut-être à laquelle elle ne s'attendait pas. Puis je ne veux pas vous en dire trop parce qu'on va vous présenter un extrait d'entrevue qui nous décrit le métier justement d'auxiliaire sexuel. Il y a beaucoup de questions. Un, c'est quoi exactement? Deux, comment s'est ramassé là-dedans? Les exemples de ce qu'elle fait aussi avec ses clients parce que ce n'est pas tout à fait la même job qu'une escorte régulière.
Mais là, attends un peu. Ouais, c'est ça que j'essaie de comprendre. Là, dans le fond, elle... Tu me diras si j'utilise les bons mots ou pas. C'est une prostituée qui se spécialise avec des personnes handicapées.
On va le dire comme ça. J'ai pas envie de vous
ça
en
marche
dire trop. Oui, c'est totalement
ouais.
Ça. En fait, tu sais, auxiliaire sexuelle, c'est que elle a décidé d'aider les gens qui avaient des troubles, donc des handicaps autant mental que physique,
mais qui avaient des besoins pareils.
Niveaux, ben oui, parce okay. Que c'est des humains, ce sont des gens, je veux dire. Puis c'est des besoins qu'on a tendance à oublier, mettons qu'on se dit vraies affaires. Tu sais, on pense pas que peut-être que les besoins sexuels peuvent être un besoin important pour ces personnes-là. Fait que le jour où elle a rencontré quelqu'un qui avait bon un lourd handicap, sur le coup, honnêtement, ça l'a choqué. Puis bon. Après avoir passé 1 heure avec ce client-là puis avoir appris un peu que, OK, même la sexualité est différente pour ces gens-là, comment elle pourrait peut-être les aider, elle s'est dit, bien, je vais en faire une spécialité. Et c'est la seule au Québec qui a fait ça pendant des années parce que c'est relativement reconnu en France, entre autres. Elle a aidé l'Université de Marseille à créer un programme pour former des gens pour pouvoir être auxiliaires sexuels.
Mais quand tu dis reconnu, c'est parce que la dernière... Puis moi, je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais la dernière fois que j'ai regardé la prostitution, c'était pas légal
non,
au Québec.
Parce que si tu arrives avec quelqu'un qui a un handicap, on va lui donner certains soins, certains services.
Ça rentre là-dedans?
Dans certains pays, oui.
Je suis d'accord,
des
moi, en passant, mais...
Pas ici. Non. Dans certains endroits, totalement. Puis ici, c'est plate à dire, mais ça aussi, ça fait partie de la discussion qu'on a eue. C'est tellement mal fait, c'est tellement tabou, il y a tellement de non-dits. Il y a un côté légal, mais illégal. La ligne est tellement fine qu'il faudrait que ça s'améliore dans les prochaines années. Puis elle se bat pour ça aussi.
Parce que toi qui es fonctionnel au grand complet, tu peux t'occuper toi-même, mettons, de ta sexualité. Mais... Le
ça m'arrive.
Gars qui est, mettons, paralysé.
Le matin, des fois.
Arrête,
mais...
je veux pas le savoir.
Des fois, je me réveille la nuit.
Je veux pas le savoir.
Non, je dis ça demain.
Je veux pas le savoir non plus. Mais mettons, le gars qui est paralysé.
À job,
là,
à la salle de bain. Non, c'est pas
besoin,
vrai. Je suis pas capable.
Il a besoin d'aide. J'allais dire un coup de main, puis il faut pas faire ça, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Ben, tu sais, il a besoin d'un coup de main aussi, dans le fond, là, mais.
Voilà.
Mettons qu'on
on vient à la base, hein, c'est là qu'on
non,
était.
Regarde, on est des adultes, on va utiliser les vrais mots. Fait qu'on a parlé de
ça tous les jours à 4h30. On utilise les vrais mots.
Elle fonctionne-tu comme un genre d'électron libre en solo ou elle fait partie d'un réseau? As-tu un pimp? C'est-tu.
Non. C'est ça, il y a tout ça qu'il faut séparer aussi, là. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui font le métier du sexe qui sont totalement indépendante. T'as pas un pimp automatiquement
non,
quand t'es dans le métier de la sexualité. En fait, quand t'as un pimp, c'est le côté côté complètement dark là, ben oui. du métier
ben,
du sexe.
C'est parce qu'il y en a plusieurs qui vont te dire que c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait peut-être légaliser et encadrer
totalement.
Ce genre de métier-là, parce qu'il y a un besoin, il y a une offre, il y a une demande.
Ben oui, puis quand t'as un pimp, généralement, t'es pas en contrôle vraiment de ce que tu fais, de la clientèle que tu reçois, des services que tu donnes, de l'argent que tu fais. Fait que ça, c'est une totale autre histoire. Fait que je vous invite à l'écouter. On va parler aussi de l'importance de ce métier-là qui est zéro connu, finalement, parce que ça aide vraiment ces gens-là à beaucoup de niveaux. Puis de ce qu'on pourrait peut-être changer dans les années à venir.
Puis, on écoute ça ensemble. Et après ça, on va revenir. Puis, levez la main si vous avez des questions. Ou textez. 418-971-1021.
Donc, tu as été escorte puis auxiliaire sexuel, ce qui est assez unique au Québec. Qu'est-ce que tu qualifies d'auxiliaire sexuel? T'sais, les gens ne savent pas vraiment c'est quoi, là.
L'auxiliaire sexuel, dans le fond, c'est comme un remplacement d'un partenaire pour les personnes qui ont des handicaps de toutes sortes. Ça peut être physique ou mental. C'est différent de l'escorte qui, elle, est plus là pour, je dirais, comprendre et procurer le désir sexuel au partenaire opposé, alors que l'auxiliaire, c'est un petit peu plus touché parce que c'est là pour déterminer le besoin du client et déterminer comment donner plaisir autrement, si on veut. Parce que ce qui marche avec une personne handicapée ne va vraiment pas fonctionner nécessairement avec une autre. Ça va prendre énormément d'empathie, une capacité à, comment dire, capacité à prendre plaisir, à donner à l'autre. C'est surtout ça. Parce que si tu es mal à l'aise, si tu n'as pas de plaisir à le faire, ben, potentiellement, c'est une extrême mauvaise expérience pour ces gens-là qui souvent sont déjà vulnérables au départ. Et puis, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur eux dans un sens. Alors, on s'improvise pas auxiliaire. Moi, ça a été vraiment comme fait par erreur, si on veut. Mais toujours est-il que je vois le métier d'escorte et d'auxiliaire complémentaire et totalement opposé à la fois. C'est vraiment des choses très, très spécifiques, différentes, mais qui ont quand même le même but, c'est-à-dire d'offrir du désir, du plaisir.
Puis quand tu dis que c'est arrivé par erreur, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, en fait, c'est que au début, j'étais plus escorte standard, si on veut, et puis j'ai eu un client qui a pris rendez-vous sans dire qu'il était fortement handicapé. Et c'est quelque chose qui, au début, m'a peut-être un peu choquée. Puis à la fin de la rencontre, j'étais complètement flabbergastée. J'avais l'impression d'avoir servi à quelque chose. Peut-être que le mot « servi » n'est pas l'idéal, mais j'avais l'impression vraiment d'avoir contribué à quelque chose pour cette personne-là, chose qui n'était pas arrivée les autres rencontres auparavant, on s'entend. Donc, avec des clients réguliers. Donc, je suis allée sur mon computer, après sur mon Google, je me suis lancée dans les recherches, puis j'ai reçu l'information d'une dame qui s'appelle Cheryl Cohen Green, qui est probablement la première auxiliaire sexuelle au monde, si on veut, qui a comme mis un peu le sou sur la face de la Terre et qui et on peut voir entre autres là, dans un film qui s'appelle Les Sessions 2012. Faut vraiment que vous regardiez ce film-là si ça vous intéresse. Ça explique exactement, mais d'une manière extrêmement intéressante, c'est quoi une auxiliaire sexuelle sous un film. Donc, c'est pas un documentaire, c'est vraiment une histoire et c'est palpitant.
Puis, au final, pourquoi avoir choisi de t'investir après ça auprès des gens en situation d'handicap?
Mais je pense que ça vient déjà du fait que quand moi, j'étais jeune, déjà, j'avais ma mère qui était malade dans mon entourage. Donc, prendre soin des autres, ça l'a toujours, 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 toujours été quelque chose de très important pour moi. Puis, j'avais comme l'impression qu'il y avait un besoin immense parce que là, c'était quelque chose de nouveau. Je voyais qu'il n'y avait rien qui était offert en ce sens-là et je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai comme décidé justement de me spécialiser là-dedans tranquillement, pas vite, puis d'accumuler les qualités que ça prend, parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose qu'on doit travailler sur soi. On doit se dire, est-ce que c'est quelque chose que je veux? Parce que dans le fond, aussi, il faut penser que ce n'est pas très commun. Donc, déjà mal vu, c'est un tabou, hein? Et c'est quelque chose que moi, je voulais battre, mais pas nécessairement non plus pour en faire une grosse polémique. Donc, c'est pas évident. C'est un domaine qui est pas nécessairement évident, mais pour moi, c'est important, c'est une cause extrêmement importante. Ces gens-là, ils ont des besoins qui sont comme les nôtres, mm-hmm. comme ceux de toutes les autres personnes sur Terre. Ça change pas. Et en plus, ils ont pas nécessairement les capacités et les ressources.
Absolument.
Pour répondre à ces besoins-là.
Tu m'as parlé tantôt que c'était peut-être une relation qui est un peu plus développée là, que celle d'une escorte avec son client. Qu'est-ce que tu faisais exactement ouais. avec tes clients? Est-ce que c'est seulement de la sexualité? Comment tu gérais ça?
C'est très peu de la sexualité, en fait, pour être honnête. Pardon. L'auxiliaire sexuelle, elle va surtout être là pour donner du plaisir autrement. Parce que en général, ça arrive parfois que c'est possible, mais en général, ils ne sont pas nécessairement capables d'avoir une relation sexuelle de type standard, entre guillemets. La pénétration n'est pas souvent possible. Il y a des limites. Il y a beaucoup de limites et c'est différent pour chacune des personnes. Donc, souvent, ça va être plus quasiment un rôle de thérapeute, si on veut. Il va y avoir beaucoup de toucher, d'effleurement, caresser les cheveux, utiliser le corps autrement. Tu sais, j'ai par exemple une personne handicapée avec laquelle j'ai travaillé. Écoute, il a aucun contrôle sur son corps, aucun. Il souffre d'un certain type de paraplégie avec des spasmes importants. Et pourtant, le petit maudit, il était capable de me faire jouir très facilement en utilisant la paume de son pied. Ça a l'air niaiseux, mais à force d'utiliser son imagination, puis ensemble, lui puis moi, on revoit toute la machine, puis on se dit, attends une minute, là, on pourrait-tu taper quelque chose après la plante de ton pied qui vibrerait, par exemple, qui pourrait donner du plaisir. Puis tu sais, moi, souvent, ces gens-là, je vais pas les voir à l'infini. Je vais fixer une certaine limite de rencontre, justement, pour éviter que cette relation-là puisse aller au-delà de la simple relation. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, arrive souvent. Ils vont s'attacher, puis je peux comprendre. Hein, on est la première personne qui leur prodigue amour, affection et intérêt. Donc, pour eux, c'est un peu un automatisme. Alors, faut faire attention à ça. Moi, j'ai mis plusieurs règles en place pour aider justement à limiter cette problématique-là qui malheureusement est réelle. Mmh. Autant pour les auxiliaires sexuels que pour les escortes standards.
J'aimerais que tu me parles d'à quel point une escorte ou un auxiliaire sexuel, là, dépendamment des cas, peut devenir importante pour son client. Je sais que tu as vécu quelque chose de difficile dans les derniers jours, puis si tu es à l'aise de le partager, j'aimerais juste qu'on puisse démontrer aux gens à quel point ça compte.
Oui, ça compte et c'est énorme parce qu'il faut penser que quand ces gens-là viennent nous voir, ils sont en situation de détresse, que ce soit au niveau de l'auxiliaire sexuel, une personne avec handicap, autant qu'une personne qui, souvent est en situation d'infidélité ou, par exemple, n'a pas eu de sexualité depuis longtemps. Et virginité tardive, c'est-à-dire des jeunes hommes de 25-30 ans qui n'ont toujours pas eu de relation sexuelle, ni non plus d'intérêt envers la gente féminine ou de relation amicale avec la femme, quoi que ce soit. Et donc, on entre dans leur vie puis ils vont automatiquement un peu s'attacher, ce qui est tout à fait normal quand on y pense. Et récemment, j'ai eu l'appel d'une mère endeuillée qui venait d'enterrer son fils par suicide et elle m'appelait moi parce que ce fils en question a laissé une note à mon égard qui témoigne de l'importance de ce rôle-là que j'ai eu pour lui. Et c'est malaisant un peu parce que évidemment je ne peux pas lui donner ça en retour. C'est pas quelque chose que je peux faire d'être la copine personnelle des gens que j'ai rencontrés. Moi, je peux juste les aider puis donner les outils. Mais ça me touche énormément et surtout, ça souligne 45 fois en gros qui a un problème. Je pense que les personnes handicapées ont besoin de plus que ce qu'on leur offre présentement. C'est criant. Et ça, c'en est une conséquence, c'est-à-dire qu'ils préfèrent souvent mettre fin à leur jour plutôt que de vivre dans cette solitude et cette crise-là, parce qu'on parle pas juste de sexe, là, pas du tout. On parle vraiment tout l'aspect relation, tout l'aspect... comment dire, c'est vraiment très profond, c'est difficile à expliquer, mais on est vraiment une bouée de sauvetage pour ces gens-là. On est souvent, malheureusement, la seule source de plaisir dans leur quotidien.
Bien, c'est que ça amène un sens aussi, à quelque part, à leur vie, un espèce de semblant de normalité. Écoute, j'ai envie de te demander, tout simplement, en terminant, peut-être comment on doit changer notre vision des travailleuses du sexe, des escortes. Je rentre là-dedans aussi, les auxiliaires sexuels. Qu'est-ce qui pourrait peut-être être amélioré? Je ne sais pas s'il y a un message que tu as envie de lancer, mais je trouve ça fort quand même, la discussion qu'on a.
Oui, moi j'ai un message à lancer, puis c'est que l'État va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein? Je pense que ces gens-là ont droit à des services. Et moi, quand je parle d'auxiliaire sexuel, j'inclus aussi les gens qui ont des difficultés importantes au niveau de la sexualité, que ça peut être l'éjaculation précoce, des difficultés érectiles qui perdurent, une incapacité à avoir un orgasme, etc. Donc, quelque chose qui pourrit un peu la sexualité, là, et des handicaps. Ça devrait être quelque chose qui est beaucoup plus adressé et qui est gratuit pour la plupart de ces gens-là. Ils en ont besoin et je pense que c'est nécessaire et le gouvernement va falloir qu'il mette un petit peu ses culottes à un moment donné puis qu'il adresse ces enjeux-là. Et je pense que une des clés pour aider, ce serait d'offrir des formations, entre autres en auxiliaire sexuel. J'ai beaucoup de jeunes femmes qui me contactent et qui disent comment est-ce que je peux devenir auxiliaire sexuel. Malheureusement, ça n'existe pas encore et ça devrait pas être le cas. Moi, j'ai travaillé avec l'Université de Marseille en France. J'ai travaillé avec d'autres universités où on met de l'avant des formations pour ces gens-là. Il y a aucune raison que ça n'existe pas ici. On a des escortes de qualité. Elles ont seulement besoin d'être formées pour un public qui en a réellement besoin. Et quand ces filles-là vont prendre goût à aider les autres, je pense que ça va améliorer beaucoup le portrait qu'on a de l'escorte actuelle. Là. Parce que ces filles-là sont comme moi, sont des bonnes personnes qui veulent aider souvent, mais qui n'ont pas les bons outils pour le faire et surtout aucune aide gouvernementale quelconque par rapport à la pratique de leur métier, leur sécurité et surtout l'avenir, la précarité de leur situation. T'sais. Je pense que le gouvernement a une grosse job à faire à ce niveau-là. Surtout au niveau de la formation pour les auxiliaires sexuels qui pourraient travailler avec les personnes handicapées et diminuer, espérons-le, le taux de suicide, entre autres.
Merci tellement d'avoir pris le temps. J'ai beaucoup appris. Je connaissais, mais pas du tout, le métier d'auxiliaire sexuel. Je pense que les gens vont apprécier aussi de le connaître davantage.
16h39 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Donc, conversation que Audrey a eue avec une... mon Dieu, je cherche mes
auxiliaire
mots.
Auxiliaire sexuelle.
Une auxiliaire sexuelle. Puis, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Premièrement, concernant la prostitution et la légalité, c'est Marceau qui nous a envoyé la distinction qui est quand même importante parce que c'est flou, là, veut pas, là. Elle a le droit de se prostituer, ce n'est pas illégal. C'est l'achat ou la demande de services sexuels qui est illégal. Puis dans certains salons de massage, à une certaine époque, moi, je me souviens des reportages, puis il y a un auditeur qui s'en rappelle aussi, tu laissais l'argent dans un journal ou dans une boîte, puis...
Il n'y avait pas de transaction.
Il n'y avait pas de transaction. Il y avait quelqu'un qui laissait de l'argent là, puis il y avait quelqu'un qui trouvait de l'argent par hasard, tu sais. Fait qu'il y a toujours eu moyen de contourner, puis... Ce que je trouve intéressant dans cette réflexion-là, c'est qu'elle, elle parle des personnes avec un handicap physique, tu sais, que le sexe peut être thérapeutique, que ça peut éviter des suicides. Je suis obligé d'étendre ça à grandeur, moi. J'ai l'impression que les services de prostitution ou d'accompagnement sexuel, ça peut être excessivement thérapeutique pour du monde qui file pas entre les deux oreilles puis qui ont le deux bras puis le deux jambes.
Puis qui n'osent pas parce que c'est illégal, ce genre de service-là.
Puis t'en as beaucoup qui vont dire la même chose. Tu sais, il y a des fois où j'arrive, puis il n'y a même pas de sexe, puis je regarde un gars qui braille pendant une heure, puis qui me compte sa vie. Mm-hmm.
Mais totalement. Puis tu sais, la sexualité prend tellement une place importante dans nos vies en général, dans nos relations personnelles. On en parle souvent, tu sais, à quel point, moi, si dans ma relation de couple, là, il n'y a pas de sexe, ça se peut que je trouve ça difficile à un moment donné, ça se peut l'infidélité, le ci, le ça. Puis je m'étais jamais arrêtée à penser avec quelqu'un qui a un fort handicap, puis qui a soit jamais goûté à ça vu l'handicap, et ou qui a eu un accident puis qui du jour au lendemain a pu accès par exemple à ses parties génitales, que ça fonctionne plus de la même manière. Il y a tellement de zones érogènes sur le corps dont on ne connaît pas nécessairement la présence.
Non, parce que nous autres, le jeu de base peut nous donner suffisamment de plaisir, fait qu'on n'a pas besoin de se poser plus de questions.
Exactement, mais son rôle est exactement là, tu sais, d'éduquer, de prendre une personne puis de montrer à cette personne-là, bon, ben toi, ton plaisir, tu peux aller le chercher exactement de cette façon-là, puis vous avez entendu les exemples qu'elle donne, là, sont très, très concrets, là. Ça sort de ce que nous, on fait normalement, là.
Elle a parlé d'un film qui est disponible sur les plateformes de streaming, Véro.
Sur Disney+, si vous cherchez le film The Sessions qui met en vedette Ellen Hunt, ça, d'ailleurs, elle avait été nommée aux Oscars à cette époque-là. Ça fait une dizaine d'années que c'est sorti. C'est carrément ça, sur les sex surrogates ou encore les auxiliaires sexuels. C'est un gars, puis c'est basé sur une histoire vraie. Là. C'est un journaliste qui, lui, avait eu la poliomyélite puis devait passer une bonne partie de sa vie dans un poumon d'acier. Puis il avait mis une petite annonce pour rencontrer quelqu'un. Puis elle avait commencé à travailler avec lui. Puis c'était un film qui était ultra touchant. Puis moi, c'est la première chose qui m'est venue en tête quand tu nous as parlé de ce reportage-là que tu faisais. Mais sur le texto, on nous a rappelé que dans la culture populaire québécoise...
Il y en a qui ont de la mémoire.
Ça a été traité il y a plusieurs années, dans les années 90.
La série Jasmine.
Oui, une série policière.
Qui était, une série policière. Puis tu avais Marie-Soleil Touga. Vous vous souvenez de Marie-Soleil Touga qui est décédée tragiquement là, dans l'accident dans le nord du Québec. Marie-Soleil Touga, dans cette série-là, jouait le rôle d'une prostituée qui, à un moment donné, décidait par compassion d'avoir une relation sexuelle avec une personne handicapée.
La fameuse scène du bain.
Dans le temps, ça avait fait jaser. Puis oui, j'ai encore le souvenir que la scène était dans le bain, t'as raison.
Ça avait fait jaser pour plusieurs raisons, parce que d'abord, l'acteur, c'était vraiment un homme qui avait un handicap. Mm-hmm. Puis l'autre affaire, c'est que Marie-Soleil Touga, c'était la petite fille du Québec. Et là, elle devenait femme avec ce rôle-là. Éléments à ce moment-là. Fait que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas rien qui l'amène dans l'actualité.
C'est ça. Puis le principe d'escorte qui prend des clients avec handicap, ça, c'est pas nouveau. On l'a vu aussi dans Les Beaux Malaises avec Martin Matt. On l'a vu à plusieurs reprises. Ce que je trouve fou avec Valérie, Mademoiselle V, c'est qu'elle s'est dédiée juste à ces gens-là avec des handicaps de toutes sortes.
Elle a trouvé sa vocation.
Ah, carrément. Puis tu te rends compte que c'est plus que de la sexualité. T'es quasiment psy, là.
Mais les personnes qui ont besoin d'elle tombent dessus comment? Toi, t'es tombé dessus comment? Elle a un genre de Facebook, un Instagram. C'est comment est-ce qu'elle s'affiche?
En fait, depuis plusieurs années, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle raconte des histoires qui lui sont arrivées. Elle explique ce qu'elle fait. Moi, en fait, c'est elle qui a communiqué directement avec moi, fait qu'on s'est mis à échanger, on s'est mis à se raconter toutes sortes d'affaires. Elle avait écrit aussi...
C'est à quel moment que tu as dit « Moi, j'ai pas d'handicap, là, je veux dire...
»
OK, c'était pas pour ça. OK, je comprends.
Mais elle la trouvait spéciale. Elle s'est dit « Je vais faire mon aide. »
Valérie est rendue dans la quarantaine, puis elle a comme un peu tiré sa révérence officielle de faire ça à temps plein. Elle dit qu'elle était à retraite.
Elle n'a-tu formé?
En fait, elle a aidé beaucoup de jeunes filles, comme vous l'avez entendu, qui ont demandé des informations de qu'est-ce que tu fais exactement, comment ça fonctionne. Mais tu sais, elle est rendue qu'elle en prend encore quelques clients de temps en temps là, qui vont la contacter. Parce que veut pas ça, c'est pas juste le client en soi. Hein. Souvent, ça va être la famille aussi du client qui doivent être au courant, parce qu'il faut que tu le transportes, ce certain client-là.
Oh, ouais, tu peux pas faire ça discrètement. C'est pas fou,
mais
ça.
Pas du tout. Puis souvent, ces gens-là vont être sur le bien-être social ou vont avoir une aide gouvernementale certaine qui fait que ces sous-là, la famille va les gérer. Fait que c'est pas discret, mais pas du tout. Fait qu'il y a des femmes qui l'ont approché, pour avoir des conseils, parce qu'eux autres savaient pas en tout comment gérer ça. De plus en plus, j'imagine que ça va prendre une certaine place, mais elle travaille en ce moment, à l'international, mais ici surtout, à Québec, au Québec, pour essayer de faire connaître de plus en plus les besoins de ces personnes-là, puis d'essayer de trouver des recours pour ces gens-là, parce que, tu sais, on en parlait avec Yann ce midi, puis il m'a dit quelque chose qui m'a quand même marqué, que je ne savais pas, ou plutôt à laquelle j'avais jamais pensé. Tu as des filles qui vont prendre leur cours de massothérapeute pour pouvoir offrir des services à ces gens-là qui vont passer sur les assurances pour les aider à payer. Puis en réalité, ce qu'elles vont faire, c'est du service sexuel. C'est fou quand tu y penses qu'il faut que tu trouves des entourloupes constamment pour essayer d'aider
ça
des
devrait,
gens.
Ça devrait être plus simple. Ça devrait être, je sais pas, on est rendu en 2024, on peut se parler de ces affaires-là. Là.
Bien, en fait, tu résumes exactement, je pense, le mandat qu'elle essayait d'avoir en communiquant au final avec moi, parce qu'elle me disait, c'est fou comme au Québec, on dirait que escorte et éduquer, ça va pas ensemble. Automatiquement, ça veut dire que t'es un déchet qui a pas réussi ta vie, là, ou que t'as voulu faire de l'argent facile, puis t'as pas eu un bon entourage.
Ou on colle ça à la criminalité directement.
Ben, carrément, puis elle a vraiment fait ses études en sexologie, puis maintenant, elle s'est rendue compte que crime, j'ai le goût de tester le terrain. Je vais le dire de même. Ah ouais. C'est funky, mais j'ai beaucoup d'admiration, puis ben aujourd'hui, elle en prend encore de temps en temps, mais là, c'est vraiment plus son expertise qu'elle veut partager.
Réflexion intéressante d'un auditeur de longue date, Mathieu, qui nous texte, il dit un problème des problèmes qui contribuent à la démonisation de la prostitution, c'est que très peu de professionnels de la santé adressent la sexualité en globalité, dans le sens que la seule fois qu'on parle de la sexualité avec ces professionnels de la santé, c'est t'es-tu fertile, t'es-tu pas fertile?
Tu bandes-tu, tu bandes-tu pas?
Alors que comme ergo, comme physio, comme psy, travailleuse sociale, etc., on pourrait discuter de sexualité et s'assurer que la personne est en sécurité et satisfaite dans sa sexualité.
Le volet sécurité, je pense que ça doit tellement être facile de profiter de quelqu'un qui a certains besoins puis d'être mal intentionné, alors que c'est comme dans n'importe quoi, en encadrant, en donnant du lousse sous supervision, là, on pourrait probablement éviter un tas de problèmes puis amener plusieurs solutions.
Oui, puis ce que je trouve fou avec ce que Valérie fait, au bout du compte, c'est que oui, elle offre des relations sexuelles, mais c'est surtout que quand elle termine de les voir, là, vous l'avez entendu, là, elle ne garde pas beaucoup de séances avec ces gens-là pour ne pas créer d'attachement, parce que ça causait des problèmes.
J'imagine, ben oui.
Ça, tu sais, l'histoire qu'elle vous a racontée, là, c'est vraiment une maman qui... Elle avait un héritage, là. Ça n'a pas de bon sens, parce que l'homme pour qui, bon, elle offrait des services, était franchement attaché. Puis ce qu'elle m'expliquait, c'est ça, c'est que le but, c'est de les conduire à avoir une autonomie.
Puis une confiance, j'imagine.
Une confiance pour que ce soit naturel, que si on a un partenaire, à un moment donné, c'est écoute, moi, mon plaisir, je le retrouve par peu importe les mamelons.
Mais moi, je vais être capable de t'en donner de telle manière.
Exactement. Tu sais, fait que ça apporte vraiment du beau dans la vie de ces gens-là.
Puis quand tu trouves ça, après l'avoir cherché, puis peut-être même y avoir renoncé pendant des années, bien là, tu mélanges tout, puis tu te dis, eh bien, cette femme-là, je vais l'épouser. Tu sais.
Ouais, j'imagine.
Non, mais tu sais, c'est ça un peu pareil. Puis des histoires comme ça, t'en as aussi. Dans les OnlyFans de ce monde, puis tout ça, parce que t'as un sentiment de proximité qui est fake parce que tu payes pour l'avoir, puis en même temps, à un moment donné, tu finis par y croire, tu sais, que t'as cette attention-là qui dépasse l'affection que tu peux avoir pour un client, tu sais, puis ça peut causer des gros problèmes, effectivement.
Pis, écoute, elle brise des tabous. J'ai envie de dire, là, parce que je sais qu'elle est très à l'aise dans tout ça, elle brise même des tabous corporels, là. Tu sais, c'est une belle femme qui est ronde, qui est assumée, qui est éduquée, qui a plein de choses à dire. Puis honnêtement, si jamais vous avez envie de la retrouver sur les réseaux, d'aller voir ce qu'elle fait, ce qu'elle raconte, il y a du croustillant assez le fun à entendre. Donc, il y a la chaîne YouTube, Mademoiselle V, MLLEV, tout simplement. Okay. Son Instagram aussi est sur Facebook. Elle est relativement discrète, mais sa chaîne YouTube est assez remplie.
Hey, il est 16h49 à Boulevard 102.1, c'est Gravel.